Stéréautisme, le podcast qui donne la parole aux étudiants sur le spectre.
Le genre, la psychiatrie comme structure oppressive, la valeur qu'on accorde à la folie. Venez découvrir Sacha qui nous fait le plaisir aujourd'hui de nous parler de sa vie sur le spectre. Un épisode riche qui explore le spectre de l'autisme comme interface avec d'autres spécificités. Bonne écoute.
On commence un peu avec une question un peu bizarre, s'il y en a une qui te plaisait...
Tu sais que tout à l'heure j'ai lu petite cuillère, j'étais genre oh, et je pensais que c'était petite cuillère ou grande cuillère, tu vois la position des calances. Mais je sais plus j'ai oublié exactement ce que c'était, mais en vrai on a pas mal qui peut me parler, je sais pas.
Bon bah gaufre ou crêpe.
Ok, gaufre ou crêpe, du coup clairement crêpe, déjà parce que je suis pas sûre d'avoir vraiment goûté des bonnes gaufres en fait, et j'en ai jamais fait. Puis depuis que je suis végane, de toute façon, les gens qui en ont fait, bah, j'ai pas pu les manger du coup.
Voilà. Les recettes de gaufres véganes.
Sûrement, mais j'en ai jamais fait parce que moi j'ai pas de trucs pour faire les gaufres. Alors que les crêpes c'est super facile.
Bah, avis aux amateurs, si jamais quelqu'un pour la prochaine vestige ou quoi que ce soit, me faire
les gaufres véganes.
N'hésitez pas. Moi, j'aimerais bien savoir, dans un premier temps, pourquoi tu as accepté de participer au podcast.
Alors, c'est vrai qu'on m'a fait remarquer que j'étais un peu dans une démarche proactive techniquement, parce que finalement, c'est pas toi qui m'as proposé, mais genre, j'ai répondu aux mails, etc. Pourquoi? C'est toujours une grande question. Je pense qu'en vrai, on peut dire que déjà, j'aime bien raconter ma vie. C'est vrai que mes dissertations, elles ont toujours 25 pages. Et il y a ça forcément. J'aime bien aussi les formats en général, des podcasts, des choses comme ça. Enfin, ça me fait pas mal plaisir de faire des podcasts avec Marie Transistor à l'époque, tout ça. Évidemment, il y a tout l'aspect... c'est pas juste raconter ma vie pour raconter ma vie, sinon j'ai des amis pour ça, ou des psys, mais c'est plus l'aspect raconter un peu ma vie et ma vérité ou ma manière de voir les choses, parce que, enfin, je vais pas dire, oui, mon parcours il est hyper unique, et du coup il y a besoin d'avoir la perspective du monde sur ça, ou alors au contraire, mon parcours il est hyper universalisable et tout, mais forcément il y a un peu des deux, genre c'est chouette s'il y a des gens qui peuvent se retrouver sur certains points. C'est chouette aussi si on peut voir certaines combinaisons, je pense, de choses, parce que je pense qu'on va le voir dans le reste de l'entretien, mais il n'y a pas qu'une manière de voir les choses, une manière de vivre les choses, et même moi je pense que si j'avais eu accès à d'autres récits que certains récits, on va dire, assez généraux, ça aurait changé un peu... la chronologie de ma vie sur la neuroatypie, etc. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça, vouloir partager mon expérience et qu'elle serve à des gens et tout.
Okay. C'est trop cool parce que l'objectif du podcast, pour moi, c'était au départ justement de lutter un peu contre ce qui est aberrant sur l'autisme qu'on peut encore entendre aujourd'hui. Initialement, moi, ce qui m'intéressait, c'était déconstruire les stéréotypes de genre liés à l'autisme. Okay. De base, dire qu'on imagine toujours quand même un homme globalement au départ. Après, on peut affiner ce stéréotype, c'est quand même la première image qui vient quand on pense à une personne autiste.
Ça, c'est tellement intéressant parce que du coup, j'ai fait un mémoire sur la non-binarité et c'est incroyable. Il n'y avait pas de questions spécifiquement sur le handicap ou les neuroatypies, mais en fait, c'est venu dans tous les entretiens. Tout le monde était soit handi, soit neuro, soit les deux, enfin voilà. Et c'était incroyable parce que la moitié de mes enquêtés étaient autistes, quoi. Et je pense qu'au contraire, c'est hyper lié à la transidentité et l'autisme.
J'ai lu plein d'articles là-dessus sur il y a des personnes qui sont très radicales qui considèrent que. Le fait d'être autiste, ça influence obligatoirement la considération du genre. J'attends qu'il y ait des personnes qui considèrent qu'être autiste, c'est un genre.
Parmi les enquêtés, il y avait une personne justement qui considérait que c'était en gros. Enfin, son genre était extrêmement défini par son autisme.
Ouais. J'ai un peu eu du mal à comprendre pour l'instant parce que moi je l'ai vu que à travers des articles. Et c'est vrai que c'est aussi l'intérêt du podcast d'aller voir directement les intéressés pour savoir. Comment est-ce qu'ils sont comme ça et comment ils le vivent ?
Moi, j'avoue, pour ça, c'est pas vraiment mon cas. Okay. La personne en question, Enfin, ça se tient beaucoup. Enfin, déjà, je pense qu'il y a vraiment des interactions dans les deux sens, en gros, sur le genre, l'autisme, le genre. La personne en question était vraiment dans cette démarche du fait de pas comprendre les normes sociales par l'autisme, et du coup, bah forcément, pas comprendre non plus la norme du genre. Donc, ça faisait pas de sens dans un monde où sa neuroatypie faisait que la personne ne comprenait pas cette norme de genre, de définir ensuite une norme de genre. Donc, finalement, quand on demandait c'est quoi ton genre, bah, c'était juste défini par la neuroatypie en premier lieu, quoi, okay, ouais. En gros.
Ok. Toi, plus personnellement, comment tu t'es rendu compte que tu n'étais pas neurotypique ?
En prenant connaissance de cette question, ma première réaction, ça a été de me dire c'est mes amis qui me l'ont dit. En vrai, il y avait plusieurs choses, parce que c'est vrai que la question, elle est juste axée sur la neurotypie en général, avant d'être axée spécifiquement sur l'autisme. Du coup, on va dire, quand est-ce que je me suis rendu compte que je n'étais pas normale ? Il y a eu plusieurs choses, déjà parce que j'ai d'autres troubles, on va dire, en général, et du coup, bah, j'expliquais beaucoup, beaucoup de choses par certaines autres choses, par certains autres troubles. Et après, particulièrement, on va dire, sur la neuroatypie, j'ai commencé à me poser des questions, justement, parce que mon entourage était entièrement neuroatypique. Non, pas vraiment. Enfin, on va dire les questions sur l'entourage familial, c'est plutôt dans un deuxième temps, enfin, même troisième temps. Mon entourage, mes amis essentiellement, et les quelques amis que j'avais qui n'étaient pas, c'était hyper difficile en fait de traîner avec eux, ça me demandait énormément d'énergie, mais j'ai commencé à le comprendre plus tard. Mais pour le coup, mes amis, même depuis longtemps en fait, c'était toujours un peu les gens bizarres, quoi. Puis à l'ONS, c'était encore plus flagrant, enfin, genre ils commençaient à vraiment se rendre compte des choses. Moi, très clairement, je vais peut-être en parler un peu après, mais quand j'ai commencé à parler à certains de mes amis du fait que, en gros, j'étais en parcours de diagnostic, quoi, et moi, j'étais un peu comme si c'était un big deal, etc. Et puis, il y en a qui m'ont dit, mais t'es pas déjà diag, enfin, tout le monde était au courant. Ouais, pour le coup, à part pour moi, apparemment. Voilà, donc, je sais pas, je voyais bien que j'étais pas trop... Enfin, moi, j'étais un peu pas normale, on va dire, je savais pas exactement pourquoi. Et après, vraiment, les questions de neuroatypie, je pense que c'était vraiment depuis l'ENS. Déjà, okay. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas neurotypiques à l'ENS.
Bah, du coup, c'est vraiment parce que t'es la deuxième personne là qui me dit exactement ça. Il y a beaucoup de gens qui sont pas neurotypiques à l'ENS.
Enfin, j'ai envie de dire, si tu fais un ENTSP sur un truc, si t'es hyper passionné sur quelque chose, enfin, n'importe... Ouais, c'est logique que t'atterrisses dans des choses comme ça. Puis même souvent, les gens un peu bizarres ou un peu, je sais pas, isolés au collège-lycée, c'était un peu en même temps les nerds ou les intellos et les choses comme ça. Enfin, je sais pas, tout semble super logique.
Non, mais oui, je suis d'accord. Et du coup, quand est-ce que t'as commencé à entendre parler de neuroatypie ?
Je pense que quand j'avais vraiment commencé à en entendre parler, c'était... Alors... courant 2017-2018, là où je peux vraiment visualiser une personne qui m'en a parlé, cette personne parlait plutôt de neurodivergence d'ailleurs, parce qu'elle était plus dans les cercles anglophones, on va dire, par rapport à ça, et apparemment c'est plus utilisé. C'est une personne qui du coup était autiste, notamment, et une personne avec qui j'ai eu une relation pendant 5 ans. Donc on était assez proches. Petit fun fact, je sais pas si c'est un fun fact, mais c'était une personne qui pour moi c'était assez clair qu'elle était autiste, mais de son côté elle considérait que je l'étais pas du tout, et même au début elle considérait que j'étais pas du tout neuroatypique. Et du coup ça aussi c'est un truc qui m'a freinée, j'étais là en mode bon bah cette personne l'est clairement et elle dit que je ne le suis pas, du coup je ne peux pas l'être. C'est pour ça qu'il y avait ce truc en mode bon je suis pas très normale mais c'est pas de la neuroatypie, donc voilà, je sais pas trop. Donc ouais, c'était beaucoup par cette personne, et on gravitait autour de cercles en gros du syndicalisme lycéen, étudiant, d'extrême gauche.
Du coup t'accordais déjà beaucoup de valeur à la personne qui était déjà diagnostiquée, et comme si elle avait une capacité à te diagnostiquer ou non et à t'évincer directement.
Je sais même pas si elle était déjà diag à ce moment-là, peut-être pas au début, je connaissais quand même relativement jeune, 17 ans, 18 ans, mais il y avait la personne, c'était pas que parce que, enfin si évidemment il y avait tout cet aspect, elle avait déjà la validation on va dire des gens autour plus ou moins, aussi parce que c'était une personne importante dans ma vie et du coup je me suis dit bah elle doit me connaître ou enfin il y avait un peu ce double aspect, ouais il y avait une autre personne, bah un de mes meilleurs amis en fait qui pareil qui pour moi était clairement autiste et un jour cette personne m'a dit que moi je l'étais pas parce que toutes nos sources de à chaque fois où il y a eu des petits trucs où ça allait pas très bien entre nous, c'était à cause de son autisme apparemment, enfin c'est ce qu'il avait dit. Et en fait plus tard on en a reparlé, il m'a dit qu'en fait il y avait plein de raisons pour lesquelles finalement il avait changé d'avis et que finalement j'étais clairement autiste. Mais tu vois en fait c'est un peu ça quand on parlait des clichés tout à l'heure. Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que j'ai vite évolué dans des cercles qui pour le coup étaient loin de ce cliché de l'homme cis, même plutôt un garçon cis, etc. Mais du coup j'ai évolué dans des cercles où les gens autistes étaient quand même, enfin avaient quand même un certain profil qui n'était pas le mien. Et notamment aussi parce qu'il y avait beaucoup de gens en fait qui étaient à la fois autistes et un trouble de l'attention. Et du coup ça change pas mal de choses en fait. Voilà.
Le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité est un trouble du neurodéveloppement provoquant trois types de symptômes pouvant se manifester seuls ou combinés. Des difficultés d'attention et son contrôle, des symptômes d'hyperactivité et d'hyperkinésie et des problèmes de gestion de l'impulsivité.
Il y avait beaucoup ces trucs, par exemple, tu vois tout ce qui est la sensibilité au son. Et bah du coup il y a beaucoup de gens qui font le raccourci en disant je suis autiste, du coup j'aime pas les soirées, du coup les soirées c'est pas des événements accessibles en gros. Et moi j'étais genre bon bah du coup c'est logique qu'on me dise que je le suis pas parce que moi j'adore les soirées, au contraire j'adore la musique très très forte, et j'ai l'impression que ça me fait un câlin, que ça m'entoure, enfin c'est trop chouette. En fait je supporte pas les gens qui parlent fort dans mon oreille,
c'est pas pareil.
Mais même un tout petit peu trop fort, je supporte pas les bruits des gens qui parlent, bah voilà. En fait c'est juste qu'il peut y avoir vraiment des... Ouais, sur une même grande catégorie, on va dire, des réactions totalement différentes à ça. Et je pense que c'est un peu ça, je me suis dit, quand je parlais un peu des modèles que j'avais eu autour de moi. Voilà.
Ah, donc l'idée plutôt de parler de spectre maintenant.
C'est vrai, oui, aussi.
C'est quand même beaucoup plus varié. Et tous les critères qu'on a pour le diagnostic autiste.
Ouais.
Moi, je sais que l'un de mes potes va du lycée, il a été diagnostiqué quand il était tout petit. Et son intérêt spécifique, c'est la technique. En fait, il passe sa vie en face d'un gros caisson la plupart du temps, et pourtant, il a plein d'autres problèmes d'hypersensorialité, notamment du au son, mais c'est pas du tout pareil. Enfin, quand même, s'adapter un petit peu à la personne, mais c'est différent.
Ouais, ouais. Ah, mais très très clairement. Mais pareil pour le truc du son, bah pareil, c'est le meilleur ami. C'est exactement le même truc, mais souvent, il parle trop fort, ou dans les transports, ou les choses comme ça. Et moi, ça arrivait plusieurs fois que je dis genre, à un moment, genre, parle moins fort, etc. Et souvent, ça le fait... Enfin, c'est compliqué, justement, c'est le genre de truc où il le prend pas bien et tout. Et moi, c'est un peu l'inverse. Tu vois, il arrive pas trop à gérer le volume de sa voix en ayant trop fort. Et moi, c'est l'inverse. Alors, je supporte pas les gens qui parlent trop fort. Et du coup, j'ai envie que tout le monde parle pas fort. Enfin, voilà. Non, ça va, t'inquiète.
Du coup, on parle beaucoup de diagnostic depuis tout à l'heure. Est-ce que t'en es où? Si ça te dérange pas d'en parler un peu.
Sur ça, du coup, spécifiquement.
Ouais, sur ton diagnostic.
Du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, je me suis retrouvée avec un nouveau psychiatre. J'ai vu plein de psy en tout genre dans ma vie, bref, c'était plus ou moins efficace. Du diag accéléré, on va dire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je pense que mon psychiatre a dû me demander au moins 4 fois si j'étais sûre que je voulais pas faire le test de l'autisme. mais il y avait justement les deux choses qui me retenaient vraiment, c'était qu'il y avait cette personne avec qui j'étais en relation depuis 5 ans, plus mon meilleur ami qui disait que je l'étais pas. Du coup je me suis dit bah pour moi c'était personne en qui j'ai confiance, qui me connaissent, donc je peux pas l'être. Bon finalement la première personne, j'ai pu contact avec elle, voilà, et mon meilleur ami bah il a dit qu'il avait changé d'avis finalement, donc voilà. Et ça a été un peu genre le dernier truc qui m'a fait dire bon ok pourquoi pas, on va tenter. Puis je devais faire mon deuxième DPH pour d'autres choses de toute façon aussi, bon autant essayer de faire les tests avant.
Le dossier de demande à la maison départementale des personnes handicapées ou aussi MDPH permet de demander ou renouveler diverses prestations, notamment les allocations.
Puis après le psychiatre était un peu enfin il disait beaucoup que il allait falloir trancher à un moment, tu vois, oui ou non, mais que sûrement il y aurait des choses qui seraient peut-être un peu difficiles parce que si ça penchait vers le oui, il y aurait sûrement beaucoup de d'adaptation, de masking, etc. de ma part. Et du coup, oui. Et voilà, bah, ça a penché vers le oui. Donc, on a fait tout ça. Et après, je me suis retrouvée avec un diagnostic de trouble du spectre autistique d'intensité légère à modérée, je crois. Dans le vocabulaire de la psychiatrie.
Du coup, si tu pouvais conseiller à quelqu'un là, qui nous écoute et qui commence un peu ce parcours qui parfois peut être vraiment un parcours du combattant, ça peut durer super longtemps, tu conseillerais de commencer par quoi, du coup, un rendez-vous chez le psychiatre c'était...
Bah, honnêtement, je pense qu'il faut vraiment bien choisir ses pros. Mmh. Parce que... Enfin, en fait, il faut choisir ses pros en fonction de tes attentes. Et moi, pour le coup, c'est pas du tout ce que j'ai fait parce que c'était un peu totalement hasard. Enfin, à ce moment-là, j'avais besoin d'avoir plus ou moins rapidement un suivi psy. Et j'ai appelé un cabinet, on m'a dit, il a plus de place. Mais si vous voulez, ce gars random que vous ne connaissez pas a de la place. J'étais là, ok. Voilà. Et maintenant, bah, je le conseille pour des gens justement qui sont en démarche de diagnostic parce qu'il n'a pas peur, on va dire, des diagnostics. Je sais qu'il y a des psys qui sont beaucoup en disant, il ne faut pas diagnostiquer. Enfin, et on le sait pas forcément à l'avance, c'est pour ça que je trouve que passer par le bouche à oreille, c'est un peu bah, la meilleure solution pour ça. Parce que du coup, oui, pour le coup, moi, ça a été vraiment rapide et facile. Enfin, c'est même pas venu vraiment de moi. Alors que j'avais vu différents psys pendant au moins 15 ans, même plus 20 ans de ma vie avant, quoi. Donc, et qui, pour le coup, bah, m'ont jamais rien diag. Pratiquement, enfin les seuls diag que j'avais eu avant ce psy, c'était genre le médecin généraliste, donc c'est... Je sais pas, moi je pense vraiment que si tu veux avoir des trucs plus rapides, faut... Ouais, c'est ça, faut passer par les gens qui vont te donner des diags plus rapides, enfin vont te proposer en tout cas de faire les démarches de diagnostic. Parce que je sais qu'il y a des gens qui se battent un peu avec leur psy en disant « Oui, est-ce que vous pensez que je pourrais avoir ça ?» Déjà, moi je vous ai jamais demandé. Voilà. Après, il y en a qui ont peut-être du courage de faire ça, mais...
Bah, du coup, si jamais, enfin là, avec présence, on essaye de se dire qu'on voulait commencer à faire des listes un peu de psychiatres qui soient un peu safe bah, pour tout ce qui est grossophobie, question trans, neuroatypie, des choses comme ça. Donc, si jamais tu peux nous filer des bons contacts, on sera ravis de pouvoir les transmettre.
Bah, vraiment, il est très bien. Il n'est pas concerné par genre les questions trans et tout. Mais, ah bah tiens, c'est totalement ce dont on parlait tout à l'heure. Une fois, il m'a dit qu'en gros, il ne connaissait rien dans les sujets du genre, mais qu'il avait beaucoup de patients trans, non-binaires, parce qu'il est spécialiste dans les neuroatypies. Ça, encore une fois, je ne savais pas quand je vais prendre rendez-vous avec lui, mais du coup, il est spécialiste dans les neuroatypies. Et donc, bah, encore une fois, la corrélation entre les deux. Voilà, donc, même si de base, il ne s'y connaît pas forcément, le fait est qu'il a beaucoup de patients trans. Et ça se passe bien. Enfin, moi, il n'y a jamais eu aucun problème sur ça. Donc, ouais.
C'est top. C'est vrai que quand on vient consulter pour un sujet très précis, ben, c'est pas pour autant qu'il faut quand même laisser passer tout le reste, entre guillemets, pour que la personne soit safe. Pour tellement de choses que c'est un peu délicat de trouver des...
C'est ça. Après, quand je dis prenez les spécialistes et tout, en fonction de ce dont vous avez besoin, très clairement, lui, comme il ne se sentait pas à l'aise sur le sujet trans, il n'a pas voulu me faire... l'attestation psy pour avant de commencer les hormones. Du coup, bah, j'ai demandé à une autre psy, tout simplement. Donc, pas si vous voulez le mot et profiter de l'expérience des autres.
D'où l'idée de créer une petite communauté. Et du coup, on a quand même parlé de plein de diagnostics différents là. Toi, est-ce que tu as d'autres diagnostics d'un point de vue neuroatypique ou...
Alors, neuroatypique spécifiquement, si on définit la neuroatypie avec TDAH, autisme et les troubles 10, non.
Ouais, mais... qui sont entrés en corrélation un peu avec une diagnostic de
Mais pour le coup, d'autres diag, genre psy, oui. Je pense que le plus important dans ma vie, et depuis, on va dire, le plus important dans ma vie, ça a été le trouble de la personnalité limite, du coup.
Le trouble borderline, également appelé trouble de la personnalité limite, est un trouble complexe, dont les manifestations sont très variables d'une personne à une autre. On parle dans ce cas de polymorphisme important. Les principales demeurent l'hyperémotivité, l'instabilité affective, l'impulsivité et la fréquence des comportements à risque.
Ça, c'était le truc duquel j'étais sûre depuis à peu près mes 16 ans, enfin voilà, c'était vraiment quelque chose qui a énormément défini ma vie depuis, j'en étais à peu près sûre, je passais les nuits à regarder, à lire des trucs sur ça, etc., je savais tout dessus, je posais des questions à mes amis avec tous les critères diagnostiques pour savoir si je rentrais dedans, etc. Et du coup, j'ai eu le diag officiel l'année dernière aussi. Okay. Donc, bon, finalement, le diag officiel, il était assez longtemps après, quelques années après. Là où, finalement, je m'en suis vraiment rendu compte, mais après, je sais pas, de base, je me disais que ça changerait pas grand chose à ma vie, d'avoir la validation, la psychiatrie, tout ça. Bon, évidemment, il y a quand même une part de moi qui était plus ou moins soulagée de me dire que oui, en effet, j'avais quand même ce que je pensais que j'avais raison, et c'était pas juste dans ma tête, bah si, mais... Mais voilà, donc ça, ça avait été important. Et puis, d'un point de vue pratique, hein, pour avoir les aménagements, pour avoir des sous, enfin voilà, c'était pratique aussi. Et c'est pour ça aussi, je disais qu'il y a beaucoup de choses que j'imputais à ça, plutôt qu'à l'autisme, parce qu'en fait, il peut y avoir des traits quand même en commun. Par exemple, tout ce qui est le sentiment, en gros, de ne pas avoir d'identité, c'est très présent, du coup, le trouble de la personnalité. Bah, déjà, c'est un trouble de la personnalité, limite. Et c'est vrai que, un peu ce dont on parlait tout à l'heure sur les normes et de ne pas comprendre certaines normes avec l'autisme, ça peut entrer un peu, je trouve, en corrélation. Enfin, on peut penser que c'est une chose alors que c'est l'autre. Enfin, voilà. Des amis qui se foutaient un peu de ma gueule pour ça en disant « Sacha, tu vas tout expliquer par le trouble border. » Oui, donc c'est sûr qu'il y a plein de choses que j'essayais d'expliquer en tout cas avec ça, alors que finalement c'était quand même plus l'autisme. Pareil, au niveau de choses que j'essayais d'expliquer avec le trouble border alors que c'était pas vraiment ça, il y a aussi beaucoup de changements d'humeur en gros, sauf qu'ils sont très rapides et ils sont vraiment triggers par un truc en particulier. Bref. Et quand on a des changements d'humeur qui sont plus lents, qui sont aggravés par les antidépresseurs, et qui sont pas triggers par quelque chose en particulier, mais qui sont sans raison, on va dire, c'est la piste de la bipolarité. Du coup, voilà ce qui s'est passé quelques mois après mon diag border.
Le trouble bipolaire est caractérisé par des troubles récurrents de l'humeur. Chez les personnes malades, l'humeur évolue typiquement selon deux phases, d'où le terme bipolaire, qui surviennent en alternance. Épisode maniaque ou hypomaniaque, c'est-à-dire exaltation de l'humeur, agitation psychomotrice, et épisode dépressif avec des intervalles de rémission.
Ça, je n'y pensais pas du tout à ce diag, on va dire, il est un peu venu, pas de nulle part, mais ça m'a beaucoup surpris. Et c'est celui qui a le moins d'influence aujourd'hui sur ma vie, parce que c'est assez, entre guillemets, facile à gérer, parce que, enfin, il y a des petits mots régulateurs, du coup, donc c'est traitable, enfin, c'est gérable par médicaments.
Les thymorégulateurs ont pour but d'améliorer les troubles de l'humeur. On les appelle aussi les normothymiques. Ils permettent de réduire la fréquence, la durée, l'intensité des épisodes maniaco-dépressifs, entre autres, et améliorent la qualité de vie entre les épisodes. Ils sont souvent associés aux antidépresseurs et aux anxiolytiques.
Du coup, c'est pratique.
Ça a quel effet, les
thymorégulateur, du coup, enfin, voilà, c'est l'humeur en grec, régulateur, donc c'est des mots de stabilizer, là. Okay. En gros, c'est pour ne pas, enfin, couper un peu les phases hypomaniaques ou dépressives, voilà, pour aplatir, on va dire, un peu la courbe de ton humeur.
L'hypomanie est un trouble de l'humeur qui implique un besoin moins important de dormir ou de se reposer, une grande extraversion, compétition, et une énergie débordante. L'hypomanie est un critère diagnostique important des maladies du spectre du trouble bipolaire. Contrairement à un accès maniaque, donc trouble bipolaire de type 1, un épisode hypomaniaque peut être productif et ne présente pas de symptômes psychotiques. Une forme moins marquée d'hypomanie est l'hyperthymie.
Dans le temps. Du coup, ouais, ça n'a pas trop d'influence aujourd'hui. Et finalement, la différence avec les deux autres, c'est que, bah, que ce soit autisme ou le trouble de la personnalité limite, c'est pas soignable. Le trouble border, c'est techniquement, tu peux être en rémission, je crois que ça s'appelle, il faut faire beaucoup de travail, de thérapie, de choses comme ça, et après tu peux ne plus rentrer vraiment dans les critères diagnostiques, mais bon, c'est toute autre histoire, et voilà. J'ai fait un podcast sur ça, justement avec Transistor, en différence.
Voilà.
Et oui, c'est ça, mais c'est quand même, il suffit pas juste de prendre un médicament, on va dire. Enfin, je sais que c'est quand même plus compliqué que ça, même la dépression, les choses comme ça, mais typiquement, tu peux agir sur certains symptômes, mais ça va être très difficile, ce sera pas traitable de manière médicamenteuse, et pour l'autisme, bah, c'est pareil, tu peux juste masquer en permanence et faire beaucoup d'efforts pour t'adapter à toutes les situations. Et ça marche, mais c'est fatigant et ça marche pas tout le temps non plus. Voilà, donc je pense qu'il y avait ça qui était un peu en corrélation. Après, j'avoue, il y a quelques années, ça commence à dater, j'avais eu d'autres petits tiacs, on va dire, je sais pas trop si ça compte, justement, je parlais du médecin généraliste tout à l'heure. Mmh. Mais je pense que c'est plutôt des symptômes d'autres trucs. Enfin, tout ce qui était genre... du sommeil, trouble anxieux, et qui me définit moins en vrai aujourd'hui, et troubles alimentaires. C'est des trucs qui sont... Certaines formes de troubles alimentaires au niveau des textures et choses comme ça, ça va plus être dans l'autisme, mais j'avoue que moi, c'est plus tout ce qui, on va dire, dans les conduites autodestructives, donc là, ça passe du côté border. Voilà. Plutôt des symptômes, je pense, aujourd'hui, d'autres choses. Voilà.
Et du coup, tu peux préciser ta vision de... Enfin, je sais que l'autisme ne définit jamais, enfin, dans ce que j'ai pu lire, comme une maladie, parce que on va vivre avec toute sa vie, c'est un trait de ta personnalité. Et est-ce que toi, tu considères ça comme justifié, enfin, vis-à-vis du coup de tes autres diagnostics, est-ce que tu fais une distinction entre différents diagnostics où certains sont du côté, entre guillemets, c'est ta personnalité? Est-ce que des fois, tu trouves que certains sont du côté, entre guillemets, pathologique et t'as des médicaments et ça peut t'aider? Ou est-ce que tout est pathologique ou tout est dans ta personnalité?
Bah, tu vois, déjà... Enfin, je pense que t'as entendu plusieurs distinctions, donc il y avait personnalité, et il y avait aussi tout ce qui était médicamenteux, tout ça. Bah, juste avec ce que je viens de dire avant, techniquement, un trouble de la personne limite, c'est considéré comme un trouble, enfin, en gros, une maladie, sauf que ça se soigne pas par médicaments. Donc déjà, bah, cette limite-là, elle marche pas forcément dans ce cas-là, enfin, en tout cas, pas pour faire cette distinction entre trouble et neuroatypie. Après, c'est l'ordre de la personnalité. Il y a cette blague quand on dit « oui, ton trouble ne définit pas ta personnalité. Et si t'as un trouble de la personnalité, comment tu fais ?» Voilà. Enfin, je sais pas, moi j'ai vraiment pas spécialement l'impression d'avoir une personnalité définie autre que par justement certains traits qui peuvent être considérés comme des symptômes de différentes choses. Mais du coup, j'aurais du mal à me dire que ça fait partie de ma personnalité, mais que ce soit l'un ou l'autre, en fait, j'avoue que je fais pas spécialement de distinction. Tu m'as vraiment posé une question en mode avec plusieurs distinctions et à chaque fois je te fais non.
C'est pas grave. Et du coup, plus particulièrement sur l'autisme, ouais. Tu considères que c'est une maladie à tes yeux?
Bah, ou... en fait, je trouve que c'est pas la question que j'ai envie de me poser. C'est-à-dire que il y a beaucoup de choses. Enfin, en fait, comment dire? Le critère maladie, pas maladie, pour moi, c'est quelque chose qui va relever de la psychiatrie. Et ça va avec, enfin, quand on parlait du diagnostic, c'est utile parfois si t'as besoin d'aménagement et tout. Mais en soi, l'institution psychiatrique, c'est pas quelque chose à, enfin, dont on est censé avoir besoin de leur validation, ni de rien. Pour moi, c'est une structure oppressive, Foucault, tout ça. Voilà, je suis en philo. Et du coup, bah, j'ai pas envie de valider leurs critères, en fait. Et si tu veux, pendant longtemps, l'homosexualité, ça a été considéré comme une maladie, ça a été psychiatrisé. La transidentité, pareil. Ça fait pas très longtemps que c'est plus considéré comme une maladie, finalement, mais c'est quand même encore beaucoup psychiatrisé. Enfin, je trouve que ça aurait pas spécialement de sens de reprendre cette distinction. C'est pas que je considère ça comme une maladie ou pas comme une maladie. Et en plus, j'ai l'impression, c'est pas pour incriminer des gens spécifiquement, mais qu'il y a pas mal de gens qui sont juste, on va dire, neuroatypiques et qui ont pas d'autres troubles psy, qui ont tendance à jeter sous le bus les gens qui sont plus fous qu'eux. Et c'est pareil d'ailleurs avec certains troubles psy, où pareil, des gens ils disent « Ah mais eux ils sont plus fous que moi, je sais pas si t'es en dépression et que tu vois des gens qui ont des psychoses, des choses comme ça. » Enfin, c'est toujours ce truc de un peu essayer de gagner de la respectabilité en disant que finalement t'es un peu plus normal que les autres, finalement toi t'as pas une maladie mais c'est un trait de personnalité ou je sais pas, même si c'est pas forcément fait avec des mauvaises intentions. J'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de distinction, tu vois.
Ouais, j'avais jamais pensé comme ça. L'idée de pas considérer l'autisme comme une maladie, c'est en fait un moyen de le faire rentrer comme dans un système plus accepté comparé aux autres troubles.
C'est ça. Genre, ouais, moi j'ai pas trop envie de faire ça, quoi, de me dire nous on est différents et voilà. Bon, en plus, moi je suis les deux, mais. Donc, pour moi, c'est pas trop la question. Après, en termes de handicap, je trouve que c'est un peu différent pour le coup. Et si on définit, on va dire, le handicap comme quelque chose qui est contextuel à un contexte donné, à une société donnée, etc., il y a des choses qui pouvaient peut-être être des giga handicaps avant, qui le sont un peu moins. Peut-être que, bah oui, aujourd'hui, que ce soit l'autisme ou d'autres maladies psychiques ou physiques ou n'importe, je considère tout ça comme des handicaps parce que c'est handicapant, littéralement, parce qu'il n'y a pas d'aménagement de la société. Mais j'ai envie de dire, s'il y a des choses, c'est très facile, finalement, de vivre avec ça socialement, parce que ce serait pas remarquable, enfin, voilà, remarqué. Peut-être qu'à un moment, ce sera plus un handicap, enfin, voilà. Ça, c'est juste une constatation sociale, on va dire.
Et du coup, ton diagnostic personnellement, enfin, vis-à-vis de ce que tu disais du handicap, il t'a été utile au sein de l'école? Enfin, il y a eu des aménagements qui ont concrètement été mis en place ou...
Alors, au sein de l'école, j'ai pas eu besoin du diagnostic avant d'avoir des aménagements. En fait, ce qui s'est passé, c'était... je sais plus exactement quand, mais là où, d'ailleurs, j'ai commencé à me dire que ça avait quand même beaucoup d'impact, y compris sur ma scolarité... Et le fait que je me retrouve à vivre seule, enfin une période où j'étais à l'arrêt de l'école et mes colocs étaient partis, et ça ne marchait plus, je n'avais plus à vivre, c'était assez compliqué. Et en gros, c'était ma psychiatre de l'époque qui m'a proposé de me faire une lettre en disant « Voilà, en gros, je fais une lettre attestant que tu as besoin de vivre avec des gens, plus ou moins, voilà, résumé. » Et là, je me suis retrouvée... pris dans ce parcours presque sans faire exprès où j'avais vu avec l'infirmière qui m'avait envoyé vers le médecin et le médecin qui avait globalement mis son tampon sur le truc quoi, m'avait renvoyé vers le référent handicap, tout ça, un peu tout ça qui s'est fait plus ou moins tout seul, m'a juste envoyé vers d'autres gens et après on m'a sorti en fait un plan accompagnement handicap là. Et alors c'est un peu long parce que il fallait toujours faire signer par une personne puis par une autre puis par une autre. Parfois, on me répondait que ça mettait du temps parce que l'école n'avait qu'un logiciel gratuit pour faire une signature par jour.
Et c'était à toi de le faire.
Ouais, c'est ça, où je transférais les mails. Donc ça, j'avoue, c'était un peu long et chiant.
Bah, c'est une charge énorme.
Voilà, c'est ça. Bon, j'ai envie de dire, c'était pas pire que le dossier MDPH.
Ouais.
Mais du coup, c'était... enfin, en fait, j'avais... C'était bien fait au sens où j'avais pas eu besoin de faire beaucoup de demandes et je m'étais retrouvée dans ce truc. D'ailleurs, le médecin de l'ENS, il savait pas que j'allais me retrouver dans un plan accompagnement handicap. C'est après Thibaut Chambriard, du coup, qui m'a mis sur cette route, en gros.
Le plan d'accompagnement de l'étudiant en situation de handicap, ou PAEH, est un dispositif qui permet aux étudiants en situation de handicap de bénéficier des aménagements nécessaires en fonction de leurs besoins pour suivre leurs études supérieures. Matériel adapté, preneureuse de notes, temps supplémentaire... Thibaut Chambriard, qui vient d'être cité par Sacha, est le président du service prévention et handicap de l'École normale supérieure de Lyon. C'est donc à lui qu'il faut s'adresser si vous souhaitez bénéficier d'un tel plan.
Et c'est après le médecin, il a vu « Ah oui, vous avez fait ça, bon bah d'accord ». Voilà, donc je me suis retrouvée là-dedans et du coup après ça allait un peu tout seul pour les aménagements de logement, enfin en l'occurrence c'était par rapport à la résidence. Et du coup pour le coup j'ai pas eu de problème par rapport à ça. Et j'ai pas eu besoin de diagnostic. Enfin, j'ai l'impression, en tout cas, que vraiment par rapport à l'école. Je sais pas comment ça s'est passé pour d'autres personnes, peut-être que j'ai eu de la chance. J'ai vraiment juste eu besoin de dire, voilà mon besoin. Et ça s'est fait tout seul après. Et j'ai pas eu besoin de le justifier outre mesure. Bon, j'avais quand même eu l'aide de ma psychiatre, mais c'était en pas de diagnostic, etc. Après, au niveau des profs, des cours, les choses comme ça, j'ai pas... Enfin, c'est le genre de truc où je me suis un peu, je me suis toujours adaptée beaucoup au cours, donc je crois que j'ai même pas pensé à l'idée que ça pouvait potentiellement me poser problème. Et ça a commencé à vraiment avoir, à prendre une importance au début de l'année dernière, quand il, j'ai eu plein de diagnostics d'un coup, j'ai changé de psychiatre, il s'est passé plein de trucs au niveau de ma santé, on va dire au tout début 2023. Et j'ai été hospitalisée, et après quand je suis sortie, enfin l'hospitalisation c'est vraiment un monde à part où t'as plus rien à faire, t'as plus rien à penser, mais du coup c'est hyper dur de sortir parce que tout à coup tu dois refaire les choses, même des trucs tout cons, te réveiller le matin ou te faire à manger, ou voilà, et puis là tout à coup il y avait du bruit partout et tout à coup tout avait changé, c'était trop bizarre, et là c'était trop dur d'aller en cours, mais pour le coup les profs ont à peu près tous été vachement compréhensif. Il y en a certaines avec plus ou moins d'empathie, bon voilà, mais globalement pareil pour les trucs que j'avais pas rendus, qui étaient en retard, que j'avais rendu en retard, tout le monde m'a laissé les mettre après, donc c'est ça. Et puis l'infirmière, elle arrêtait pas de me dire s'il y a un problème avec les profs, vous allez voir le médecin et en gros il vous fait des certificats ou je sais pas trop quoi et il n'y a pas eu de problème donc voilà.
Ok, donc ça s'est finalement, enfin plutôt bien passé.
Ouais, non vraiment, il n'y a plus de soucis à ce niveau-là.
Du coup, ma question qui va peut-être tomber un peu à l'eau qui était, est-ce que tu aurais des aménagements, enfin tu trouverais intéressant à proposer au sein de l'ENS qui ne sont pas déjà mis en place?
En vrai, enfin, tu vois, dans ce qui avait été un peu notable, dans ce que j'avais dit, c'est que ça venait de ma part. Ouais. Peut-être, je sais pas, c'est beaucoup de points d'interrogation, qu'il pourrait y avoir plus de proactivité de la part de l'école, mais après, c'est un peu en suspens, j'avoue, j'ai pas trop d'idées précises comme ça. En revanche, là où ça pourrait être vraiment bien, c'est tout ce qui est prévention, mais c'est pas de la faute. Ben, en l'occurrence, les infirmières sont vraiment des chouettes personnes. Et elles l'ont dit, enfin, l'année dernière, on avait organisé une journée de la santé mentale, enfin, avec plusieurs assos, dont Arc-en-Ciel et tout. Et en fait, elles l'ont dit explicitement que c'était vraiment compliqué, parce qu'elles n'étaient pas assez, il n'y avait pas assez de moyens, il y avait énormément de personnes qui étaient en crise, vraiment, enfin, c'était... Et du coup, elles prenaient que les gens, donc c'était urgent, en fait, et elles ne pouvaient pas suivre les gens, même pas à long terme, en fait, juste à moyen terme, à court terme, c'était hyper dur, et c'était... Et du coup, bah, c'est dommage quand tu fais à chaque fois les gens qui sont en crise, c'est déjà trop tard, quoi, presque. Tu peux pas t'occuper des gens juste avant, des signaux juste avant, ou même de la prévention, vraiment. Donc ça, je pense que ce serait bien de mettre peut-être du budget dans plus d'infirmières, psy, etc., pour qu'il y ait un accompagnement un peu en amont. Prévention.
Là, c'est le premier bien-être étudiant qui est en train de tenir en place au sein de l'ENS avec la nouvelle médecin qui vient d'arriver, qui est vraiment génial. Et du coup, sur le plan purement de l'autisme, avec présence, on a pour objectif aussi de faire passer l'ENS dans le projet Atypi Friendly. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un vrai pôle santé au sein de l'ENS avec un représentant pour les personnes sur le spectre de l'autisme pour que justement ce que tu décrivais à l'instant, ce soit pas aux intéressés de s'en occuper, en fait, que ce soit quelqu'un qui soit payé par l'institution pour faire ce job, parce que c'est pas normal que des personnes qui ont déjà du mal et qui demandent des aménagements, qu'elles doivent souffrir encore plus pour pouvoir accéder à ces aménagements-là, enfin, c'est un peu contre-intuitif.
Puis ça prend du temps, et quand tu passes la moitié de l'année à faire ça, bon, tu passes la moitié de l'année sans aménagement, forcément. Et c'est quoi le plan dont tu parlais? Je voulais parler de l'autre truc, tu voulais faire rentrer l'école dans...
Ah, ça c'est, c'est le projet Atypi Friendly. Okay. Il y a déjà 6 universités en France qui sont dedans, dont notamment Lyon 1. Et il y a un pôle santé avec une mission handicap, et au sein duquel il y a des référents pour les personnes sur le spectre de l'autisme. Et par exemple, je sais pas si les gens peuvent pas se rendre en cours parce que pour x ou y raison, typiquement, je le sais de source sûre, il y a certaines salles qui ont une soufflerie absolument insupportable et qui fait que en fait juste c'est un peu bête parce que la personne peut être en cours, être intéressée par le cours, mais juste l'environnement va faire qu'elle ne peut pas rester dans le lieu. Et du coup il y a un étudiant qui est payé par l'institution pour prendre des notes et les donner aux personnes.
C'est sûr que récupérer des notes à droite à gauche.
Oui, c'est pas.
Oui, un peu complexe.
Et puis c'est bien aussi que l'école, d'un point de vue institutionnel, prennent sa responsabilité vis-à-vis de ça, quoi. Et que ce soit pas toujours d'un point de vue associatif, qu'on passe le tampon. Voilà. C'est une question qui devrait être faite par l'administration.
Enfin, souvent, ça commence d'un point de vue associatif.
Ouais.
Enfin, je sais, tout ce qui était procédure, les carenciels, changement de prénom, les choses comme ça, ça a beaucoup passé par l'asso avant, et là, ça commence à être systématisé et tout.
Et du coup, j'imagine que si t'as fait toutes ces démarches-là, t'en as parler à ton cercle proche au sein de l'école? Enfin, est-ce que ça a été un sujet ou pas? Juste ça a bopé comme ça et...
On m'a un peu bully into l'autisme. J'ai vite fini ma phrase. Non, à l'ENS, je peux dire. C'était pas le cas avant, vraiment au lycée, pour le coup, c'était vraiment... un peu plus compliqué, mais à l'ENS, pour le coup... je te dis tout à l'heure, quand j'ai dit, en gros, mon psy, il a dit que c'était autiste. Et là, il y a un ami qui a dit, mais Sacha, je pensais que t'étais déjà diac, qu'est-ce que tu racontes? Donc, voilà. C'était vraiment... mes amis étaient au courant depuis fort longtemps, apparemment. Voilà, vraiment. C'était le cas de ma famille aussi, c'est quelque chose, un petit fun fact. Un jour, quand j'ai commencé à en parler à ma petite sœur en disant oui, mon fils commence à me parler de ça, et ma petite sœur, elle se retourne et elle me dit mais Sacha, tout le monde le sait. Et j'ai dit ah bon. Elle me fait mais même maman, elle le sait. Donc notre mère, à qui Bada, ça fera à peu près 4 ans que je lui parle plus finalement. Okay. Et apparemment, elle a raconté à la famille que si on avait des relations compliquées, c'était à cause de mon autisme. Vraiment, je te dis, il fallait me prévenir.
Pourquoi personne ne me l'a dit avant ?
C'est ça. Non, mais c'est pour ça que, bah, quand mon fils il a commencé à m'en parler, je me suis dit, ok, et du coup, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une liste ? J'adore les listes. Avec toutes les choses que tous les gens m'ont dit, ils me disent, ah, c'est sûr que t'es autiste parce que ça, 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 quoi. Du coup, j'ai fait des listes et j'ai commencé à recueillir plein de choses. Et... Oui, bon. Voilà, non, c'est un peu drôle. J'ai un ami qui est pareil, qui a tendance à, je sais pas, savoir quand les gens ils sont neurotypiques à peu près quand ils les rencontrent. C'est ça. Et du coup, quand j'en ai parlé, il a rigolé, il m'a fait ah bah, c'est pas comme si quelqu'un te l'avait dit il y a 2 ans. Donc, oui, globalement, mes amis étaient à peu près tous au courant, je pense. Du coup, il n'y a vraiment pas eu de problème.
Du coup, ça t'a aidé pour en parler.
Même pas forcément pour en parler, mais pour bah ça a poussé à accepter, on va dire, de faire les démarches de diagnostic, je pense, puis dans ce sens-là. Après, pour en parler autour de moi, si, peut-être aussi un peu, il y avait tout ce truc, bah déjà d'avoir la légitimité du diagnostic, même si, comment dire, même si moi je suis hyper d'accord que les gens, ils n'aient pas besoin de cette légitimité, mais ça fait quand même quelque chose en toi de se dire, bon voilà, j'ai quand même la légitimité de moi à moi, je dis pas n'importe quoi. Et pareil, plus celle de ton cercle d'amis, de ton cercle proche qui côtoie au quotidien, et bah tu te dis bon d'accord, là très clairement si tout le monde me le dit, c'est vrai que moi je me retrouve quand même là-dedans, c'est peut-être, peut-être une certaine logique. Après je sais que je me suis rendu compte vraiment récemment que c'était quelque chose que, non, c'est pas que j'ai du mal à l'accepter, mais ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le fait que pendant longtemps, j'avais des gens proches de moi qui disaient que j'étais pas autiste, alors que pour moi, ces personnes étaient clairement autistes, bref. Et du coup, bah, y a toujours ce truc où je me dis, mais ce serait quand même bizarre, et peut-être que ça se fait pas de classer, enfin de caractériser certains de mes comportements comme autistes, alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça, ou enfin voilà, ou, je sais pas...
Super intellectuel, du coup. Ouais.
Oui, évidemment. Donc, bon, du coup, je me suis rendu compte avant pas très longtemps où je parlais de certains de mes comportements à quelqu'un. J'expliquais toutes les règles qui étaient très importantes, mais très arbitraires. Quand je marche avec quelqu'un en duo, il faut que je sois à gauche, mais ce n'est pas pareil quand je suis en groupe. Voilà, il faut que tel placard soit formé à tel endroit. Enfin, plein de petites choses comme ça. Et j'étais genre, oui, je pense que si on parle de ça en termes autistiques, ce serait un peu, je sais pas, entre la case rituelle et la case rigidité de l'esprit, tout ça. Et je me suis dit, ah ouais, c'est fou, il y a un an, je pense pas que j'aurais pu dire ça de moi-même et tout. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que le fait d'avoir un entourage qui était très sûr de mon autisme, plus que moi, ça a quand même aidé un peu là-dedans à me sentir un peu... J'aime pas le mot légitime, mais je fais que le plus utilisé depuis tout à l'heure. Ouais. Mais ouais, plus simple d'en parler, on va dire.
Ouais. Je vois qu'on utilise le terme légitime, parce que pour l'instant, toutes les discussions que j'ai pu avoir, c'était vraiment... Même avec le diagnostic, sans le diagnostic, l'approbation des proches, c'était toujours... Il y a des moments où je suis d'accord, et il y a toujours ce petit moment où on se dit « Mais non, j'ai dû me tromper, ou alors j'ai dû mentir au psy, et je l'ai influencé, et ce genre de boucle infernale où on se dit « Comme je connaissais déjà ce qui était j'ai fait semblant, et maintenant il m'a posé un diagnostic. »
Qui est pas bien. Oui, non, mais c'est sûr. Quand j'ai essayé de convaincre mes amis que c'était pas vrai et que c'était juste que, comme moi j'avais pas trop de personnalité, et ben je reprenais les traits de personnalité des gens, et comme je traînais que avec des gens qui étaient autistes, bah du coup on avait l'impression que j'étais autiste. On était genre, ça c'est vraiment très autiste, ça. Donc oui, très clairement il y avait ça. Par contre, c'est la légitimité, on va dire, donnée spécifiquement par. Le psychiatre qui m'a donné, on va dire, le courage d'en parler avec mon père. Du coup, c'est pas quelque chose que j'aurais pensé faire il y a quelques années. Et c'est aussi un commentaire qu'avait fait un ami quand... alors, ah non, vous ne voyez pas, mais j'ai une grosse fixette sur le bleu. Et un jour, depuis longtemps, et voilà. Et un jour, je suis arrivée comme assez souvent quand même, absolument toute en bleu, habillée toute en bleu, avec du make-up, etc. Et là, il y a un ami qui m'a dit « Non, mais Sacha, t'es autiste. » Et je te dis « Ok, bonjour d'abord, pourquoi ?» Il m'a dit « Mais c'est pas normal, enfin, c'est rare, on va dire, d'avoir une obsession autant pour telle couleur. D'ailleurs, vraiment, je regarde tes ongles depuis tout à l'heure, c'est très cool, ils sont bleus. » J'avais des ongles bleus et je me suis enlevée hier pour faire une autre nuance de bleu tout à l'heure. Et du coup, je me suis dit « Mais n'importe quoi, enfin, tout le monde a une obsession pour une couleur. Très clairement, mon père est le jaune, tous ses habits sont jaunes, les rideaux, le canapé et tout. » Je me suis dit « Mais attends, c'est quand même génétique, l'autisme. »
Ça tient.
Voilà, donc quand tu parlais un peu de la famille tout à l'heure, bah oui, je me suis rendu compte après que mon père était très certainement, et je lui en ai parlé après, et il était genre oui, peut-être, en effet. Bah, tu sais, forcément, la neurotypie, quand... Enfin, tu peux ne pas t'en rendre compte, parce que, bah, vu que c'est héréditaire, ta famille peut l'être, tes amis le sont, parce qu'après, toi, tu rencontres avec des gens comme ça, et du coup, bah, tu te dis, bon, bah, tout le monde fait ça.
C'est la normalité d'un truc, voilà. Et ouais, c'est, ça me fait trop plaisir d'entendre des témoignages comme ça, parce que j'ai plutôt moins souvent entendu, et même pour ma part, l'idée que tout le problème, toute l'idée même de se rendre compte qu'on était neurotypique, c'était vachement vécu comme coming out. Enfin, moi, je sais que là, j'en parle pas trop, parce que j'ai juste l'impression de devoir revivre un coming out. Donc, je l'ai déjà fait une fois pour mon orientation sexuelle, je ne vais pas le refaire une deuxième fois, merci. Et c'est vrai que, de ce que j'ai pu voir, c'est vrai que ça revient quand même souvent de se dire va falloir en parler, ça va être un sujet. Et c'est vrai que d'avoir un cercle aussi proche de toi et de se dire franchement, c'est même pas un sujet, voire même il le savait avant moi, c'est quand même fou. Enfin, c'est la première fois que j'entends ça. Et, ok.
Je peux vous passer mes amies, elles sont très chouettes. C'est ça. Ouais, avec mon père, pour le coup. C'était vraiment pas la même chose, mais très proche d'un coming out. Ouais. Et quand je dis il y a quelques années, j'aurais pas envisagé peut-être de le dire. C'était la même chose pour tous mes coming out, on va dire. Il y a beaucoup de choses. Enfin, je parlais un peu des problèmes de santé que j'ai eu début 2023, et c'est lié à plein de choses, mais en particulier le fait que la vie me semble très 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 fatigante. Je pense que c'est aussi lié du coup au fait que je suis en suradaptation constante depuis toujours. Du coup, ça fait beaucoup sens finalement avec l'autisme. Et aussi pourquoi j'avais l'impression que j'avais moins de traits autistiques, parce que je... grosse adaptation, masking et tout comme on dit. Mais du coup, c'est fatigant, et je me suis dit ok, peut-être que ça me fatigue aussi de vivre plusieurs vies extrêmement cloisonnées. On va péter toutes les cloisons. Et j'ai commencé à dire des choses que j'aurais jamais dit à mon père, en l'occurrence. Donc j'ai fait à peu près 4 coming out d'un coup, si on compte l'autisme. Voilà. C'était quelque chose qui s'est plus ou moins bien passé selon le coming out. Mais voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait un peu de ça quand même. C'était moins officiel que le coming out trans, mais c'était quand même une démarche, quelque chose qu'il fallait dire, voilà. Et puis fallait préparer, avoir des arguments de backup.
Et du coup, j'imagine quand tu lui as expliqué, ça c'est lié un peu à la question que je voulais poser après, le fait d'être autiste, ça a quel impact sur ta vie, dans le sens où est-ce que, si t'as toujours évolué dans un cercle avec des personnes autistes, que t'as un père qui a une appartenance au spectre,
que ça influence. Après, c'est vrai que là, j'ai parlé de beaucoup, justement, les gens pareils, et les choses très positives. J'ai pas toujours évolué quand même comme ça. J'en ai un petit peu parlé, le fait d'être un peu cet enfant bizarre, ou après ado bizarre, ou n'importe. Je pense que moi, c'est ce qui a déterminé mon cercle amical après, parce qu'on était tous les gens bizarres. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, on était les gens bizarres. Donc à un moment, on était les personnes isolées, les personnes dont on se moquait, ou voilà, plus ou moins. Moi, en vrai, ça va, j'étais pas... Je sais qu'il y a certains de mes amis vraiment qui ont été beaucoup harcelés, etc. Moi, ça va. Mais c'était quand même pas hyper chouette, forcément, tout le temps à l'école. Enfin, école, collège, lycée. Et puis l'environnement familial. Je parlais de mon père, et j'ai d'autres membres de ma famille où... c'était pas trop la même chose. Rien que ce que je disais tout à l'heure sur ma mère, quoi. Qui disait apparemment à des gens de ma famille, je ne sais pas trop à qui, que c'est l'autisme qui rend nos relations compliquées. Donc c'était pas forcément facile. Et c'est sûr que il y a des choses que je peux revoir, comment dire, de manière rétrospective. Et du coup, je peux aussi revoir le fait de m'être très adaptée à ces choses, d'avoir radicalement changé mon comportement par rapport à ça, et ça fait un peu bizarre. Typiquement, on parlait un tout petit peu de la nourriture. Moi, il y avait ce truc où mes parents m'ont dit « mais t'aimais rien ». Ou alors, à un moment, je faisais une giga fixette sur un aliment, et après, je voulais plus du tout manger. Ou à un moment, j'étais vraiment très sélective dans mes aliments. Enfin, bref, tu vois un peu le tableau. Et mon père, il s'adaptait beaucoup à ça. Pour ma mère, c'était un peu... C'est des enfants qui font des caprices, quoi, typiquement. Et ah oui, parce que clairement, moi, si je voulais pas manger un truc, je le refusais de le manger. Je pouvais refuser de manger pendant plusieurs jours s'il le fallait. J'allais pas manger, enfin...
C'était
ah, c'est ça. Et depuis, je me suis forcée à manger, déjà parce que bah, c'est, voilà, quand on est enfant, bah, c'est un caprice d'enfant. Puis après, ça commence pas à être pas forcément pratique en société, donc je me suis forcée à faire beaucoup de choses. Là, c'est pour la nourriture, mais pour avoir l'air plus normal en public, enfin voilà, beaucoup de choses comme ça. Et j'allais dire, je trouve que j'ai plutôt bien réussi. Alors, c'est moi qui juge ça, bon... Je suppose que ça dépend, mais tout ça, c'est un coût, et c'est essentiellement de la fatigue à long terme, beaucoup, parce que je pense pas que ce soit vraiment tenable, ou en tout cas pas facilement tenable à long terme. Ta question, c'était quoi, l'impact que ça a sur ma vie? Peut-être aujourd'hui, du coup, ma vie, ou... Ouais. Du coup, je sais que il y a beaucoup de choses qui s'ajoutent, on va dire. À un moment j'étais tellement déjà crevée que je pouvais pas juste compenser, en fait. C'est à dire que là j'étais tellement déjà crevée que le moindre petit truc, le moindre source de stress, le moindre lumière qui allait pas, et là en l'occurrence j'étais chez moi et il y avait pas le bon bol que je voulais pour manger mon plat, et juste commencer à pleurer parce qu'il y avait pas le bon bol, alors que sinon j'aurais pu prendre sur moi. Mais en fait c'est ça, je peux prendre sur moi jusqu'à un certain point. Si je suis déjà crevée, je vais pas réussir. Oui. Donc je pense que c'est surtout ça. Je peux, mais c'est très fatigant. Et après, il y a toute la question d'être avec des gens qui ne sont pas neuro-atypiques. Où là, c'est bien plus compliqué. Et souvent, même si j'ai essayé de over-analyser absolument tout, j'avais pas mal de mal à avoir des amis. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai observé comment les gens y fonctionnaient, les relations sociales. En plus, ensuite, j'ai établi un tuto. J'ai un tuto comment se faire des amis. J'ai aussi la même chose pour choper les gens. Voilà, si ça intéresse.
Tuto.
Se faire des amis. Et voilà. Et du coup, bah, après, je me suis fait des amis avec ça. Mais c'est quand même être sur ses gardes en permanence. Et même si je trouve, comme je dis, que j'ai plutôt bien réussi, il y a toujours des moments où, tout à coup, il va y avoir un silence, tout à coup les gens vont te regarder bizarre, et là tu sais que t'as fait une erreur. Et tu sais pas forcément laquelle c'est. Donc voilà, je sais que j'ai des amis, ils sont très sympas, mais je devais vraiment faire des efforts en permanence quand je les voyais. Et juste j'ai arrêté, en fait, parce que j'arrivais plus. Du coup on a des relations moins proches, mais c'est difficile, en fait. Je me suis dit, ben, j'ai un cercle d'amis où c'est plus simple d'être avec eux, c'est plus reposant, je vais privilégier, quoi. Oui, c'est ça, j'arrive pas, quoi. Donc autant, on va dire, réserver un peu mon énergie pour les choses. Je suis obligée, le travail, enfin voilà. Oui, parce que du coup, en ce moment, je suis genre en service civique dans une asso. Et l'égalité des chances, qui s'appelle Article 1, c'est très très chouette. Je fais beaucoup d'interventions dans les lycées. J'ai aucun problème à parler en public devant les lycéens et lycéennes, parce que, pour moi en tout cas, les règles, elles sont hyper claires. Ça aussi, tu vois, quand je te disais les clichés, j'ai pas du tout de problème à parler à des inconnus, par exemple, quand c'est un contexte précis et que je suis déjà au courant des règles. Par exemple, en soirée, je sais exactement, tu vois. Et il y a beaucoup de gens pour qui c'est pas possible, voilà. Aussi, je suis une personne très sociable, je pense pas que ce soit forcément pas en contradiction avec ça. C'est ça, dans le stéréotype,
c'est
oui.
C'est pas du tout ce qu'on imagine pour une personne qui soit.
C'est ça. Et pour moi, parler devant des gens, enfin des élèves et tout, bah ça me rend super naturel parce que c'est très clair. C'est même, il y a certains de mes collègues qui disent oui, bah on n'est pas vraiment profs, donc en soi ils peuvent nous tutoyer et tout. Moi je dis rien et ils me voient tous et je trouve que c'est bien. Enfin je trouve que le cadre il est très bien comme ça et j'aime beaucoup. Alors que par exemple avec mes collègues c'est trop dur parce que je comprends pas, est-ce qu'on est proches? Pas trop. De quoi il faut leur parler? Si on parle du temps, et bah c'est pas assez personnel, mais après. Et rapidement, je overshare beaucoup trop de choses. C'est absolument terrible, je sais pas, c'est trop dur. Oui, puis pareil, enfin, j'ai un travail en prévention santé à côté. Et là, c'est trop dur aussi. Enfin, les personnes sont. Puis il y a tout qui s'ajoute, tu vois, tu parlais de rapport avec le coming out tout à l'heure. Enfin, c'est un environnement très 6-7, en plus d'être neurotypique. C'est un peu difficile. Donc, bon, du coup, je préfère me préserver avec les groupes d'amis que j'ai où ça se passe bien. Et prendre sur moi dans les moments, les endroits, le contexte où je suis obligée de prendre sur moi parce que c'est difficile pour l'instant de vivre sans travailler ou que ça fait des mois que mon dossier est quelque part à la MDPH. Voilà, et que je sais pas à quoi j'aurai droit à la fin comme aménagement.
Ça te plaît quand même ce travail ou c'est uniquement un effort?
Parler devant des élèves, ça me plaît vraiment beaucoup et ça m'énergise vraiment. Et donc ça, c'est très très chouette. J'ai trop envie de faire ça, et pour plein de raisons, j'ai abandonné le projet d'être prof d'une matière en particulier. Enfin, voilà. Mais tout ce qui est enseignement, transmission, c'est pour ça que j'en fais beaucoup dans l'associatif aussi, j'adore vraiment. Et ça pour le coup, oui, j'aime vraiment beaucoup et je suis trop trop contente d'avoir l'occasion de faire ça en étant un peu payée. Bon, il faut que je trouve autre chose parce que ça s'arrête bientôt. Mais il y a quand même beaucoup de downsides, des avantages, d'inconvénients et tout. Le ratio avantages, inconvénients, je sais pas très bien de combien il est. Je pense que quand tu travailles, t'es obligé d'avoir beaucoup d'inconvénients parce que c'est toi qui dois te plier un peu aux exigences. Alors que l'intérêt de l'associatif, c'est que tu fais un peu ce que tu veux, on va dire, plus ou moins, mais quand même pas mal. Du coup, si je pouvais, avoir une allocation quelconque, et je pense que je continuerais vraiment beaucoup à faire de l'associatif, être utile à la société. Donc, non, ça serait chouette pour faire un peu plus, plus facilement, je sais pas.
Tout en essayant de
l'aider. Oui.
Ça fait beaucoup.
Mais alors, l'intérêt... Alors, je sais plus si c'est une question que t'as déjà posée ou que tu es censée poser après, mais tu vois, l'autisme m'a aidée.
Ouais.
Parce que, mon M1 s'est pas bien passé du point de vue du mémoire pour beaucoup de raisons. Mais une des raisons, c'est finalement le sujet que j'ai pas accroché tant que ça avec. Alors que si c'est passé en M2, bon, j'ai changé de direction et ma direction de M2 était incroyable, j'aime bien. J'ai changé de sujet. Et en fait, j'ai enfin pris le sujet qui m'intéressait vraiment. Et là, ça a été incroyable, j'ai fait une fixette dessus, je voulais faire rien d'autre, je voulais penser à rien d'autre. Et je faisais du 8h, 22h à la PU, j'avais pas envie de prendre de pause café avec mes amis parce que je voulais travailler sur mon mémoire. Et très clairement, ça c'était très utile, du coup ça s'est très bien passé, j'ai une bonne note, etc. Et je sais que si on entretient des intérêts spécifiques, tu peux les garder autant que tu veux. Et donc je me dis, mais ça c'est parfait, si je peux le garder sur 6 ans et continuer à faire une thèse et tout, mais je veux faire ça, enfin, quitte à rendre l'utile à l'agréable. Je dis pas que tous mes intérêts spécifiques sont utiles, hein, parce que clairement, Taylor Swift, ça, c'est pas très... voilà.
Ça fait des sujets de conversation en soirée, je pense que des gens à ce moment-là...
J'étais au foyer tout à l'heure, juste entendu des gens parler d'elle, je suis allée leur parler alors que je les connaissais pas. Mais ils disaient des choses pas gentilles en plus sur elle. Donc bon, donc c'est plus ou moins utile dans la vie, mais je pense que ça peut l'être parfois. Parfois, sur les intérêts spé, ça peut être l'inverse aussi, très clairement. Si t'as un intérêt spé sur quelque chose qui n'est pas ton sujet de recherche, par exemple, ça va juste te bouffer tout autant et tu vas te désintéresser de d'autres sujets.
Je suis exactement dans cette situation.
Bon courage. Voilà, donc je me dis, si je peux faire une thèse sur un truc qui me tient comme ça, mais ce serait très chouette. Ouais. Puis j'aurais un peu mon côté sociable, enseignement, qui serait comblé par le fait, je sais pas, d'être dans des colloques ou des choses comme ça, enfin, pour parler de mon sujet. Voilà, dans le scénario idéal, ce serait chouette. Bon, les démarches pour en trouver sont... Je pense qu'elles sont un peu compliquées pour beaucoup de gens, surtout dans les disciplines, dans les sciences humaines, tout ça. Mais ouais, les intérêts spé, c'est rigolo.
Et du coup, tu viens juste de parler des intérêts spécifiques. Tu sais, un certain moment qu'avant on parlait d'intérêts restreints, est-ce que tu trouves que c'est toujours pertinent de parler d'intérêts spécifiques pour les personnes?
Attends, tu veux dire qu'avant on parlait d'intérêts restreints,
ouais,
c'est ça?
On disait okay. Intérêts restreints et après on a changé. TSM5 a changé justement cette appellation parce que c'est pas restreint en fait.
Ok, c'est vrai que je crois que la seule personne que j'avais entendue justement parler d'intérêt restreint, c'était notamment mon psychiatre. J'avais pas spécialement relevé parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire. J'ai l'impression que les psys n'utilisent pas exactement le même que les gens utilisent dans les communautés concernées. Ouais. Même si évidemment il n'y a pas une personne concernée type, mais voilà. Intérêt spécifique. Alors, je ne sais pas si c'est une opinion impopulaire ou quoi. J'ai l'impression que c'est un trait de caractère slash symptôme slash j'en sais rien qui peut être commun à quand même beaucoup de pathologies ou de troubles, des choses comme ça. Typiquement, intérêt spécifique ou peu importe comment on l'appelle. Je sais que dans TDA, TDAH, c'est genre des hyperfixations. Tout ce qui est dans le trouble border, ça va être des obsessions. C'est pour ça aussi qu'encore une fois, un sujet où j'avais pu confondre les deux, autisme et border. Ouais. Donc, est-ce que l'intérêt spécifique, c'est un... J'avoue, je ne saurais pas trop par quoi le remplacer. Oui, c'est sûr. Je sais pas. Ouais, ok. Ce ouais. Est-ce qu'ils ont d'autres idées à la place
juste, je me souviens de la personne avec qui j'ai parlé juste avant toi. C'était de dire, en fait, c'était passion, ça fait partie de ma vie. Les neurotypiques en ont, c'est juste qu'on a une certaine conception de la passion qui ne doit pas prendre trop de place dans sa vie parce que le vrai centre de la vie, ça doit être, je sais pas, avoir une famille, passer du temps avec ses enfants, des choses comme ça. Mais après, si c'est ce qui fait kiffer les gens, laissez-les faire ça, quoi. C'est juste, si les neurotypiques aussi peut-être se détendaient un peu, peut-être qu'ils passeraient plus de temps à faire les choses qui leur font plaisir. Et ils ne se sentiraient pas obligés, on va dire, vers plein de choses qui ne les font pas particulièrement kiffer, mais ils se disent, il faut passer par là, donc je le fais.
Ok, j'avais pas vu les choses comme ça. Je pense que j'ai tendance un peu à distinguer tout ça. J'adore les catégories. Je vois, je dis un truc vraiment, j'ai l'impression que ça fait partie du podcast. Je sais pas, je pense que je fais beaucoup un gradient entre... centre d'intérêt, loisir, passion, et pour moi intérêt spécifique ça va être une différence de nature plutôt et pas vraiment dans la différence de degré, j'ai l'impression. Passion, pour le coup, j'ai l'impression que même chez les neurotypiques c'est très fort comme mot, et on m'a dit un jour que c'était dans le cadre de l'aide de motivation, tu pouvais pas avoir plusieurs passions ou deux au maximum, parce que vraiment passion c'était quelque chose de très fort, sinon c'était les loisirs, des centres d'intérêt, tout ça. Et j'avoue, je suis plutôt d'accord avec cette conception. Et du coup, je pense que si les neurotypiques peuvent avoir des passions, et je pense que moi aussi, je peux avoir peut-être une passion, mais je sais pas, j'ai l'impression que les intérêts SP, en plus, c'est assez... ça peut durer finalement que quelques mois, enfin au moins, je sais pas, 3 mois, un truc comme ça, mais tu peux toujours le nourrir pour que ça dure plus longtemps. Mais ouais, je trouve que ça a quand même un fonctionnement assez spécifique. On a que je réfléchis plus en détail à la question. J'ai jamais vraiment théorisé ça. Mais là, comme ça, j'ai l'impression que c'est différent.
Et du coup, si t'avais... tu nous parlais de tes tutos, je pense que t'as des amis du projet en soirée. Enfin, si t'as des astuces à partager pour les gens qui nous écoutent peut-être et qui sont peut-être pas encore diagnostiqués, ou même juste qui connaissent pas trop et qui vont se reconnaître et vont dire « Oula, là, ça me ressemble beaucoup trop !»
Ah oui, d'ailleurs, pour les gens, enfin, tu dis qu'ils ne sont pas diagnostiqués, ou en fait, que les gens, ils soient diag ou pas, autistes ou pas même, parfois, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je ne suis pas autiste, est-ce que vous pensez que je peux acheter un Simtoy ou plein de trucs comme ça ?» Et en fait, il n'y a pas de... Enfin, on ne demande pas le certificat d'autisme pour acheter ce que vous voulez, enfin... Genre... Et puis même, vous avez l'impression que vous marchez mieux avec des béquilles, acheter des béquilles, enfin juste, ça fera de mal à personne. Sauf si vous volez les béquilles de quelqu'un dans la rue, là d'accord, dans ce cas, ne le faites pas. Mais sinon, c'est pas grave, enfin, vous pouvez avoir les aménagements que vous voulez. C'est vrai, pardon, je dérive de ta question, mais ça me fait penser un truc aussi qui a changé dans ma vie, c'est d'oser faire des trucs. Par exemple, typiquement, quand je suis avec des personnes, je te dis, je supporte pas les gens qui parlent trop fort à côté de moi, je mets des boules de caisse. Et avant, je me disais, non, faut pas faire ça et tout. Et du coup, je faisais quoi? Je partais, quoi. Puis là, je me dis, en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est eux, enfin, toi, t'as pas, comment dire, à t'adapter à eux en te souffrant. Mais en même temps, eux, ils ont pas non plus à s'adapter à toi en parlant moins fort. Enfin, voilà, il n'y a pas vraiment de solution miracle. Donc,
Il y a des compromis possibles.
C'est ça, voilà, c'est pas grave. Vous avez besoin d'un truc, osez le faire. Enfin, voilà.
Ah ouais, c'est vrai que c'est plus facile dans un sens. Parce que moi, pour le coup, les boules caisses, en prépa, je les ai vraiment saignées. justement dans les moments où on avait une cafette, où on parlait un peu avec tout le monde, et des moments je mettais mes boucles et j'étais en mode, il faut que je me calme parce que il y a littéralement trop de bruit. Et j'ai appris, genre à la fin de mon année de prépa, que je terrifiais les gens. Parce que j'avais genre mes boules caisses, mon casque, et je travaillais comme ça, parce que je dors pas. Et il me disait, mais t'as l'air si focus. Et vraiment, c'était écrit sur mon front, genre, go, go, j'ai qu'un seul objectif. Alors que pas du tout, juste, il fallait que je me coupe du bruit. Et du coup, je trouve que c'est. Enfin, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est délicat quand même de faire. Enfin, quand t'es avec tes potes et qu'ils sont au courant, tout ça, enfin, t'es avec des gens bienveillants, ça va. Parfois, je trouve que c'est encore difficile de faire ce pas.
Ah oui, non, mais ça, très clairement, ça dépend énormément des environnements. C'est pour ça que, même si c'est horrible de s'adapter tout le temps, dans notre société, c'est un peu nécessaire. Enfin, si tu veux avoir un travail, si tu veux avoir des relations saines avec tes collègues, le monde extérieur, voilà. Je sais pas comment faire autrement que ça, quoi. Du coup, justement, plein de petites astuces. Alors... Je sais que à l'époque, ça avait bien marché au lycée. Déjà, il fallait, par exemple, quand tu connaissais vraiment pas les gens, en général, j'avais fait ça le tout premier jour devant le lycée, j'étais seule et j'avais repéré les différents groupes. Donc, il fallait que ce soit un groupe assez grand pour que tu puisses t'incruster dedans. Parce que si c'était leurs deux meilleurs potes, ça allait pas très bien marcher. Ça, c'est vraiment juste pour aller voir des gens quand les gens ils sont, dehors, debout, voilà, que c'est un peu informel. Et alors moi, ce que j'avais décidé de faire, c'était de choisir des groupes mixtes. Je pense que c'est très spécifique au contexte, mais c'était un lycée très bourge, on va dire, et c'était un peu une ambiance bizarre, les groupes de mecs ou les groupes de meufs, hein, je me sentais pas à l'aise, bon aussi peut-être parce que j'étais non binaire, je sais pas si ça jouait, mais pour moi, j'ai remarqué que les groupes mixtes étaient un peu plus détendus de ce côté-là, donc je cherchais ça, puis... discrimination aux vêtements, hein. Si les filles qui avaient les sacs longchamps là, ou qui étaient habillées avec les petites jeans avec un petit ourlet et les petites chaussettes blanches, hein, voilà, bref. Ça, il fallait pas aller vers elles. donc il y avait ça. Après, quand t'es en classe, un truc qui a hyper bien marché, c'est tu vas vers un groupe de trois. S'il y a trois personnes qui sont potes, c'est parfait, et que t'es dans leur classe par exemple. Parce qu'il y a énormément de choses qui sont avec des chiffres pairs, en fait. Des groupes de deux, vous avez tout le temps ça. Ah, mais vraiment, moi, j'ai fait ça. Vraiment, c'est horrible dit comme ça, mais je m'en fichais, hein, soit de ces personnes de base. Après, c'est devenu mes potes, donc voilà. Je suis allée m'inscrire dans un groupe de trois. C'est devenu mes potes, pas forcément mes BFF tout de suite, mais du coup, au fur et à mesure, ça m'a permis de m'incruster un peu dans leur groupe. Et après, à partir de là, dans ce groupe, j'ai trouvé l'autre de mes meilleurs amis dedans, quoi. Donc voilà, je conseille. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? C'est vrai que j'avais beaucoup appliqué ça au lycée parce que très clairement rapidement, enfin le plus rapidement possible, s'adapter direct au centre d'intérêt normaux, les choses comme ça, parce que sinon t'es fiché rapidement. Donc ça pour le coup j'avais pas trop géré, mais il faut vraiment essayer de le faire dès le début de l'année avant que les gens te connaissent. Je sais qu'à l'époque je connaissais jamais les chansons à la mode et tout pour bref, différentes raisons, et en fait ça me portait hyper préjudice. Du coup j'ai vite essayé de regarder je regardais tout bête, tu vois, les top 50 ou je sais pas quoi et tout. Du coup après, quand on était en sport et qu'il y a de la musique, je reconnaissais la musique, du coup je pouvais un peu chantonner avec les gens qui faisaient ça et tout, enfin voilà, essayer de voir un peu de quoi les gens parlent, essayer de se renseigner un peu sur ces trucs, même si en soi ça t'intéresse pas spécialement, mais voilà, juste pour avoir un peu de conversation pendant les jours de cours. Après, t'es pas obligé de le faire en dehors, mais voilà. Ça, c'est plus pour survivre, en fait, dans un environnement un peu hostile que l'inverse. Mais n'empêche, le truc du groupe de trois, ça marchait, parce qu'après... En fait, c'est ça. C'est un peu de base survivre dans un environnement hostile, mais après, à partir de ça, vu que t'es plus isolé, tu peux rencontrer des gens que t'aimes bien. Donc bon. Après, il y a bien un truc que je voulais dire. Soit t'as le truc, justement, d'être dans la culture majoritaire, soit aller dans les trucs minoritaires, mais ça peut être n'importe lesquels, mais du coup parfois il va y avoir des gens qui eux-mêmes vont être plus isolés, et du coup tu peux devenir ami avec eux, parce que eux ils vont être déjà isolés, même si c'est pas pour les mêmes raisons que toi. Donc là pareil, j'ai adopté des centres d'intérêt, par exemple, bon j'ai fini par faire une grosse fixette sur un style de musique qui s'appelle le post-hardcore, voilà, bref. Parce que j'ai commencé à connaître une personne qui était un peu into this kind of stuff, et du coup je commençais à traîner avec elle parce qu'elle était jamais avec le reste de la classe et tout. Je me suis dit, ok, c'est parfait, on va pouvoir rentrer dans sa bulle à elle, etc. Enfin voilà, plein de trucs comme ça, regarder les dynamiques vraiment entre la relation. En fait, moi j'adore analyser les dynamiques entre les relations des gens. Donc c'est parfait. Je m'étais pas mal rapprochée de cette personne-là, mais il se trouve qu'il y avait une autre personne qui était vachement isolée dans la classe, et finalement, c'est avec l'autre personne que j'ai fini par être très proche. Enfin, voilà. Après, si c'est des contextes de soirée, pareil, de solutions, enfin, de possibilités, soit aller voir des grands groupes où c'est un peu facile de s'incruster dans la conversation, quoi. Puis essayer n'importe quoi où tu connais un peu un truc, rajouter un petit truc ou un petit truc drôle, voilà. Pas tout de suite overshare, ça c'est trop dur. et après, donc soit les grands groupes, soit les gens 1v1. Si c'est une soirée comme à l'ENS, comme les festives avec de la musique, c'est facile de danser avec des gens, dans un cercle où tu connais des gens et il y a des gens que tu connais moins. Si vous voyez bien avec une personne, là on commence à aller plus du côté pour choper des gens. Mais ma technique absolue, c'est de danser avec une personne et c'est trop bien et plus facile, en tout cas pour moi, de se rapprocher d'une personne en dansant avec elle. Et alors, le truc, si tu veux avoir quelque chose sur la durée, on va dire, enfin pour avoir un... c'est horrible, on dirait. Pas la garantie, mais on va dire que ce soit plus simple de retrouver ce truc avec la personne à chaque fois. Eh bien, c'est simple, il suffit d'avoir une chanson. Du coup, une chanson qui passe souvent en soirée, si possible. Et du coup, à chaque fois que cette chanson va passer en soirée, eh bien, ça va rappeler tel moment, et voilà. Donc ça, c'est parfait. Et ça marche un peu le... Je sais pas, c'est un peu réflexe de pavlofer les gens, peut-être. Ça marche avec la musique, ça marche avec les parfums. Moi, je le fais très souvent aussi. Une personne, à un moment, dans un début de drague avec une personne qui me fait remarquer mon parfum ou qui sent mon parfum à ce moment-là, après, j'arrête de le porter pour d'autres raisons et tout. Et après, quand je veux réveiller ça chez la personne, je reporte le parfum quand je vais l'avoir. Enfin, voilà. Je vais sur l'essence des gens aussi. Bref, pardon, beaucoup de...
C'est très intellectualisé, aussi, c'est très réfléchi.
Oui.
Tu as des petites fiches en fonction des différentes situations.
Pas sur ça spécifiquement, mais je pense que je pourrais. Parce qu'il y a plusieurs gens qui m'en ont demandé, donc...
Ouais, c'est des trucs.
Mais j'ai beaucoup de fiches sur plein de trucs, beaucoup de tableaux, beaucoup de listes. Sur la manière dont je vois les relations. Je l'ai fait il n'y a pas très longtemps pour expliquer à quelqu'un comment je voyais notre relation. J'ai fait 8 gradients différents, enfin 8 grandes parties avec des sous-parties à l'intérieur de chaque, etc. Et je lui ai dit qu'il était, je crois, le 3D. Voilà. Donc bon.
Et du coup, ça, dans ce genre de relation, ça, est-ce que, enfin, même toutes sortes de relations, ça t'arrive d'être 100% naturel avec quelqu'un?
Là, j'ai pensé en passant quand je parlais justement du fait d'apprendre à se faire des amis, etc. Et pour le coup, c'est un truc que m'avait pas mal dit mon père et qui disait « Oui, mais si tu fais ça, t'es pas naturel, tu vois. » Et ça, c'est un commentaire qui vient beaucoup. Mais alors, je sais pas si je me fourvoie, mais je n'arrive pas à être naturelle et je ne suis pas sûre d'avoir une personnalité, comme je le disais tout à l'heure. Je sais pas exactement à quoi c'est dû, mais c'est quoi ma personnalité? Je ne sais pas. Ou alors, ma personnalité, c'est de prendre celle des autres. Je m'adapte énormément tout le temps. Enfin, une fois, une personne m'a dit que un de mes traits de personnalité, c'était avoir un caractère obsessif. Et je pense que oui, ça peut rentrer dedans. Il y a peut-être ce truc aussi de tout intellectualiser, donc les deux jouent un peu. Mais très clairement, les centres d'intérêt que j'ai, je les ai piqués à des gens en général. Une personne sur qui j'ai fait une obsession. Je vais lui piquer un centre d'intérêt et après, mais c'est chouette, ça m'apporte beaucoup de choses, hein, très clairement. J'aimais pas les soirées techno avant de faire une obsession sur une personne qui aimait beaucoup les soirées techno. Et donc ouais, je m'adapte beaucoup au centre d'intérêt, mais c'est pareil pour le caractère des gens. Enfin, ça revient souvent, des gens qui me disent « Oh waouh, c'est trop facile de te parler, je me suis jamais rapprochée aussi vite d'une personne, tu me comprends, je sais pas, sans avoir besoin de parler, et tout, je suis genre... » Enfin, j'ai fait un clin d'œil, là, on voit pas.
C'est une naissance.
Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas, je honnêtement, est-ce que j'ai vraiment une naturalité sous ça? Je ne suis pas sûre. Est-ce que je ne suis que construction de tout ce qui m'arrive et tout ça?
Oui, c'est plus que du people pleasing, ce que tu décris.
Oui, très clairement. Oui, bah, il y a un peu de ça, mais c'est que j'ai vraiment l'impression que ma personne est forgée par les autres.
Ok. Du coup, heureusement que tu choisis bien tes amis. Comme ça, tu deviens une super personne.
Wow.
Mais ouais. Okay. Parce que j'imagine que du coup, si t'es dans un bad mood ou un moment où t'es entouré pas forcément de personnes bienveillantes ou de choses comme ça, ça peut vite avoir un impact néfaste sur toi.
Oh. Ouais. Bah, je pense que c'est spécifiquement lié à l'autisme, ça va plus être ce que je disais tout à l'heure sur la fatigue, ce que je disais tout à l'heure sur le fait de faire des trucs bizarres ou pas. Très clairement, il y a des cercles où ce que je fais, c'est pas considéré comme bizarre. Et du coup, c'est vraiment ça. Ou parfois, c'est considéré comme bizarre, mais on est tous de bizarre, plus ou moins de la même manière, donc ça va aussi. Après, ou pareil, enfin, les règles arbitraires dont je parlais, il y a juste des gens qui vont les accepter, quoi. Des gens que je fréquente et qui vont naturellement me tenir enfin, la main droite en gros, pour que je sois la personne à gauche dans notre duo. Enfin, plein de petites attentions comme ça qui valent beaucoup à mes yeux, quoi. Après, j'avoue ce que je disais spécifiquement sur genre, les centres d'intérêt et tout ça. Enfin, plus être border, je pense, mais voilà. Donc, après, il y a des gens qui peut-être comprennent un peu moins, c'est compliqué en fait, c'est compliqué d'être accessible pour tout le monde tout le temps, et je pense que c'est pas possible en fait, c'est pour ça que j'ai du mal avec lieu accessible ou événement accessible, parce que ça veut rien dire, c'est accessible quoi,
Pourquoi?
pour qui et tout, enfin est-ce que c'est accessible PMR, est-ce que vous avez des toilettes au rez-de-chaussée, est-ce que, bah, ce qu'on dit tout à l'heure, est-ce que la musique n'est pas trop forte? Est-ce que vous allez empêcher les gens de parler trop fort? Enfin, je sais pas si t'avais entendu, mais tu vois, les clubs ouf à l'ENS, il y a un peu une tradition de base que ce soit beaucoup de chants. Et en fait, les gens, ils chantent beaucoup, on se met debout sur les tables et tout et tout. Et moi, j'adore ce truc et c'est vraiment, je me sens trop 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 bien et j'adore ce truc, tu vois. Il y a eu un club ouf, pas chantant, je crois, à la destination des demandes de certaines personnes.
Je fais
Et
partie de ces
ah, ok.
personnes.
Et moi, j'avoue, j'étais un peu en mode, mais ça tue l'essence du club ouf. Et bref, j'étais très triste. Et en fait, c'est. Bah, apparemment, d'après le retour que j'ai eu, est arrivé absolument le cauchemar absolu pour moi. C'est-à-dire, il n'y avait pas de gens qui chantaient en même temps. Et ce truc un peu, je disais, de la musique tout à l'heure qui me fait, tu vois, sentir m'appartenir à un truc et que j'aime beaucoup ce son. Du coup, il y avait plein de gens qui parlaient chacun dans leur
Trouver
sens.
voix un
Et c'est
peu.
ça. Et je déteste ça. Et tu vois, pour moi, ça va pas être accessible. Hein. Ce genre
Ouais,
de
je
truc.
comprends.
Enfin voilà, donc c'est compliqué à gérer. Enfin, c'était un peu ça le club ouf d'ailleurs, le brunch, pour le coup, je trouvais ça un peu triste.
J'y suis pas allée.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'accessible, c'est vrai que c'est pas possible, ce sera jamais accessible pour tout le monde. Mais au moins, ça veut dire que les organisateurs ont une petite conscience. Donc, enfin, j'ai l'impression que ça peut pas être accessible en soi, mais ça t'offre au moins une petite garantie de te dire, je peux aller voir les organisateurs s'il y a un truc. Pour ma part, où je trouve que c'est
Oui.
pas ok, ils ont quand même cette conscience, cette démarche de se dire il y a vraiment des gens très différents et il faut essayer de se rendre adaptable au maximum.
C'est sûr. J'avoue que enfin j'étais presse arc-en-ciel avant et je disais toujours, enfin je le dis toujours, je suis vice-presse, que vraiment les gens, il faut pas qu'ils hésitent parce qu'on a des événements pour tous les goûts en fait. Si bah, tu te sens pas bien en soirée, bah, c'est pas grave, on a des événements chill, etc. Et ça, j'aime bien l'idée d'essayer de faire le maximum. Et après. Je pense que c'est pas chouette non plus de priver, on va dire, de certains événements, certaines personnes. Tu vas pas dire. Enfin, je sais pas, par exemple, je supporte pas la musique trop forte, du coup, je peux pas aller en soirée. C'est pour ça aussi que je trouve ça cool, enfin, tout le truc, bah, des boules caisses, par exemple. Enfin, je sais pas, je sais pas si c'est suffisant en soi, mais. Ou si juste on se contente du minimum, on va dire. Mais pour le coup, je trouve que la gestion des soirées est plutôt bien. Enfin, sur le VDE, les trucs comme ça, ils prennent un peu toutes les suggestions, comme t'as dit. Que ce soit la prévention, du coup, genre, boule casse et tout, capote, machin, l'espace safe, qui n'est pas forcément que parce que tu t'es fait agresser ou que parce que t'es défoncé. Enfin, voilà, tu peux aussi venir comme tu veux. Ouais, c'est vrai que c'est toujours hyper délicat. Ça, c'était quoi? Un de mes enquêtés m'en avait parlé pendant mon mémoire sur l'accessibilité et m'avait dit. Typiquement, moi je trouve que les soirées techno, enfin une soirée techno, ça peut être considéré comme des événements LGBT. Enfin voilà, pour cette personne, c'était un peu sa taille. Mais bah, ça va pas être accessible pour certaines personnes. Et d'autres, pareil, qui m'avaient dit des ateliers, enfin, pareil, d'un atelier d'apprendre à s'injecter des hormones pour des personnes transfèbres en l'occurrence, bah, les gens qui sont triggers par les aiguilles, des choses comme ça, bah, ça va pas être accessible, mais. Donc voilà, je sais pas trop comment faire, à part bah, multiplier les types d'événements, essayer d'écouter les personnes qui auraient des demandes pour certaines choses. Voilà. C'est cool en vrai si bah, un type d'accessibilité, on va dire, ne met pas de l'ombre sur un autre, quoi. Mais tu vois, moi c'est ce que je disais, j'avais un peu cette amertume envers les gens qui confondaient tout de suite autisme avec musique trop forte. Parce que c'est aussi ce qui a beaucoup retardé ma prise de conscience en fait, enfin l'acceptation plutôt. parce que bah j'étais pas l'autiste qui n'allait pas en soirée, ouais. On va dire. Donc voilà. Du coup, les gens, enfin, ça arrive souvent, pareil, un événement arc-en-ciel, quelqu'un qui disait, oui, c'est bien, il faut faire des trucs accessibles aux autistes et tout. J'étais genre, I'm right there, genre, I'm right there, et j'aime beaucoup les événements BDE, d'accord, laisse-moi tranquille.
Mais c'est cool, voilà. Moi, que tu puisses en parler et le montrer, en fait. De te dire que, bah, aussi, il y a peut-être plein de gens qui se disent, en vrai, je me suis posé cette question, peut-être une appartenance au spectre de l'autisme, et juste, je colle tellement pas sur des points qui sont tellement mis en avant que forcément, j'appartiens pas à ce spectre. Bah non, pas forcément, quoi.
Non, mais très très clairement, hein. Genre, comme tu dis, spectre, c'est que souvent tu peux être à un bout et à l'autre bout totalement.
Voilà.
Finalement, ça va être les deux faces d'une même pièce. Genre, on parlait du son tout à l'heure, mais ça peut être pour les relations aussi. Genre, il y a pas mal de gens qui sont autistes et qui sont aro-ace, j'ai remarqué aussi.
Aromantique, asexuel, également nommé par l'abréviation aro-ace, signifie celle qui sont à la fois aromantique, aro, et asexuel, ace, ou dans le spectre aromantique, aro-spec, et ou asexuel, ace-spec. Étant des termes pour des identités spécifiques, aromantique signifie une personne qui n'éprouve pas d'attraction romantique, et asexuel signifie une personne qui n'éprouve pas d'attraction sexuelle. Les personnes asexuelles, aromantiques, peuvent également ressentir d'autres formes d'attraction qui ne sont pas romantiques ou sexuelles.
Et au contraire, des gens qui vont être à fond, on va dire, dans leur relation amoureuse, sexuelle et tout. Voilà. Les deux bouts du cercle.
Et pourtant,
du spectre. Tous les... Voilà.
Question finale, un petit peu vaste. Pour toi, Sacha, c'est quoi être autiste?
Enfin, je sais pas s'il y a besoin de résumer tous les trucs,
non,
mais oui, c'est
toi,
ça. Oui, c'est ça, plus pour moi. Mais je sais que il y a ce truc. Enfin, moi, justement, ça m'a rappelé du coup le moment du diag. Ce qui s'était passé, c'est que au début, c'était plutôt clair que j'avais tous les trucs, tous les symptômes, on va dire, les traits, tout ce qui était rituel, intérêt, espérestre, passion, je sais pas. toutes les choses comme ça, et c'était pas du tout clair que j'ai les difficultés sociales, en gros. Et finalement, en parlant un peu plus, en fait, si, mais juste, voilà, je m'adaptais beaucoup. Donc, déjà, ça vaut le coup de creuser un peu, je pense, là-dedans, en général, et puis au pire, vous dites non, c'est pas grave, quoi. Ça coûte vraiment pas grand-chose, ça coûte rien à personne, en fait. Je vois pareil, j'aime pas les gens qui crachent sur l'autodiagnostic. Ok, c'est pas pour vous, le faites pas. Moi, je l'ai pas fait, très bien, mais ça fait rien à personne.
Oui, si ça
peut ça va pas, encore une fois, tant qu'on vous vole pas vos béquilles dans la rue, pas très très bien. Bref, pour moi, c'est quoi être autiste? Je suis vraiment en train d'éviter la question.
Si
je suis pas très sûre. Pas spécialement, mais effectivement, quand tu as dit, c'est une question vaste.
Ouais.
Je sais qu'il y a eu un peu un shift parce qu'à un moment c'était vraiment plus avoir, genre, avoir l'autisme, c'est genre avoir un trouble du spectre autistique, voilà,
ouais.
Et que j'ai l'impression que ça revient un peu beaucoup plus le vocabulaire de identity first, tout ça,
mm-hmm.
Donc être autiste, moi c'est pareil comme ça que je vois un peu, enfin quand je disais avoir un trouble de la personnalité limite ou être border, enfin voilà. C'est des trucs, je trouve que c'est une manière un peu de reclaim, de se réapproprier ce truc, ces caractéristiques comme une identité. Identité, ça veut pas dire forcément personnalité, vu que j'ai dit que j'étais pas très sûre d'en avoir une, mais il y a plein de choses qui font une identité et je trouve pas que ce soit mal de se mettre dans une cases, comme il y a certaines personnes parfois qui le reprochent, on va dire, déjà parce que j'aime beaucoup les cases, c'est très clair, c'est pour ça que je fais de la philo. Et, et ensuite, parce que sinon on nous met de toute façon dans des cases, donc autant que ce soit les tiennes, des cases, voilà, dans lesquelles t'es bien, tu l'aménages, tu mets un petit canapé, et c'est ça, je pense, enfin, que ce soit les identités queer, desquelles je me sens très proche, les identités Andy, on va dire, en général, et je dis pas que c'est forcément, comment dire, les frontières, elles peuvent être poreuses, en fait, entre les différentes cases, tu peux mettre des fenêtres, des portes et tout, pas de soucis, mais ouais, je trouve que, en fait, ça pourrait être ça, on peut voir les cases de manière positive, des sortes, c'est pas du tout enfermant, mais plus au contraire un endroit où à la fois t'es bien, tu te sens bien, tu te sens chez toi, Et je pense que c'est ça. Et après, bah, du coup, vu que c'est chez toi, tu peux l'aménager comme tu veux. Voilà. Des petits canapés.
Des petits canapés.
Voilà.
Trop chou. Merci beaucoup.
Eulogize me. I'm not cut out for all these cynical clones, these hunters with cell phones. Take me to the lakes where all the poets went to die. I don't belong, and my beloved, neither do you. Those Windermere peaks look like a perfect place to cry. I'm setting off. Not without my muse. What should be over burrowed under my skin, and heart-stopping waves of hurt. I've come too far to watch some name-dropping sleaze tell me what are my words worth. Take me to the lakes where all the poets went to die. I don't belong, and my beloved, neither do you. Those Windermere peaks look like a perfect place to cry. I'm setting off, but not without my muse. To the lakes where all the poets went to die. I don't belong, and my beloved, neither do you. Those Windermere peaks look like a perfect place to cry. I'm setting off, but not without my muse. No, not without you.